Voilà. Hey, notre invité, elle est là, Gabriel Giguère de l'Institut économique. Gabriel, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Ouais, là, il y a plusieurs choses là, sur le boiler. En tant qu'économiste, moi, je veux t'entendre. Les mesures de Mme Fréchette, on va donner beaucoup d'argent, mais l'idée, c'est qu'on va-tu piler ça sur la dette?
Ben, je pense que c'est assez évident, hein? On le voit très bien, là. Du côté de Mme Fréchette, ce qu'on veut faire, on veut aller réduire ce qu'on appelle l'augmentation du coût de la vie, ou plutôt diminuer l'impact de l'augmentation du coût de la vie. Essentiellement, on va augmenter les dépenses, mais on touche pas aux revenus. Plutôt, on va réduire les revenus en réduisant certaines taxes, notamment au niveau de l'immatriculation, mais on fait pas les efforts nécessaires pour réduire les dépenses au sein du budget, ce qui fait en sorte essentiellement qu'on va augmenter le déficit déjà projeté, il faut le dire, là, 8,6 milliards de dollars pour l'année en cours. Donc, on voit qu'on est dans les mesures électoralistes. Il y a certains éléments qui sont intéressants, là. Oui. Faut quand même que je le dise.
Non, mais moi, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre des baisses de taxes et d'impôts. Mais va réduire les dépenses en contrepartie pour pas que ça ait un impact sur soit la dette ou éventuellement le déficit du gouvernement, là.
Ben, c'est ça le problème. C'est parce que si on réduit de 50 $ l'immatriculation, là, estimée aux alentours de 217 $ pour l'année 2026, donc, effectivement, ça nous coûte moins cher. Si on va détaxer le papier de toilette, puis certains muffins, là, qui étaient des exemples qui ont été pris dans le journal, ben, c'est correct. Mais le problème, c'est qu'on fait pas l'effort. Donc, on va augmenter le déficit, on va augmenter la dette. Et donc, pour réduire le niveau de prix du renouvellement de l'immatriculation, on augmente la dette qui est essentiellement le fardeau sur les générations futures. Alors, c'est un peu particulier de la part du gouvernement. On sent vraiment là tout le côté électoraliste de la chose. Oui, pour la détaxation, mais non pour augmenter le fardeau de la dette à cause d'un déficit plus lourd. Et franchement, on s'enligne directement dans cette dynamique-là. Il faut, du côté de la coalition Avenir Québec, réduire les dépenses. Sinon, c'est une dette qui est plus élevée pour nos jeunes.
Ouais. Puis là, je regarde la mesure. C'est quand même 330. On avait dit 250 millions. Là, finalement, on dit qu'on a trouvé de l'argent puis que l'économie va mieux. C'est pas ça que j'entends, là. Puis qu'on a des transferts fédéraux supplémentaires. Là, après ça, là, on est rendu à 336 millions par année pendant 4 ans. C'est à peu près ça le train de mesure qu'elle a annoncé hier.
Absolument, mais ça, c'est vraiment, on est dans du discours politique complètement déconnecté de l'économie réelle. Quand on regarde là, les statistiques, ce qu'on voit, c'est que c'est des dizaines et des dizaines de milliers de pertes d'emplois au Québec. Une croissance économique famélique, là. Franchement, on regarde la croissance du PIB, là, on est au point neutre actuellement. Il n'y a rien de beau, là. Donc, quand on nous dit, là, de la part du ministre Gérard, oui, mais vous savez, c'est correct. C'est pas beaucoup, là, comme augmentation. Il n'y a pas de problème. C'est du discours politique. Il faut juste rappeler, et ça, c'est très cocasse, que pas plus tard qu'il y a quelques semaines, le ministre Gérard a dit, faites attention avec l'augmentation des dépenses là dans vos promesses électorales, notamment Mme Fréchette. Et ce qu'on voit pas plus tard qu'hier, c'est le ministre dire, ben vous savez, ce courriel-là, là, moi j'en ai écrit des milliers de courriels. Ça qui peut se permettre, en tant que ministre des Finances, de dire n'importe quoi dans une couple de courriels, ça c'est pas grave. En réalité, il avait raison auparavant. Faites attention. Vous allez simplement augmenter le déficit. Donc non, on n'est pas du tout dans une situation économique qui nous permet d'augmenter les dépenses à tout vent. Là, actuellement, on a quand même un des très, très gros déficits projetés de 8,6 milliards qui en suit un de 9,9 milliards. Alors, c'est très élevé. Ça, encore une fois, il faut le rappeler parce que c'est important. Ça augmente la dette, mais ça veut dire quoi, augmenter la dette? Ben, il va falloir un jour, à terme, la repayer, donc probablement augmenter les impôts. Mais c'est aussi augmenter le déficit, ou plutôt les charges sur la dette qui a dépassé 10 milliards l'année dernière. Donc, ça nous menotte dans notre capacité à mettre l'argent où on veut ou simplement à laisser l'argent dans les poches des Québécois.
Et des déficits, il va en avoir pour les 5 prochaines années là, au Québec. Il ne faut pas se leurrer. Là. C'est de l'argent qu'on va emprunter. Là.
Ça, c'est important. Le mot « il ne faut pas se leurrer ». Parce que si on écoute le ministre des Finances aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est « ne vous inquiétez pas, en 2029-2030, il n'y en a plus de déficit ». Mais quand on regarde le budget, il y a 1,7 milliard à 2 milliards où il n'y a aucune idée où il va aller chercher l'argent. Donc, concrètement, il n'y en a pas de retour à l'équilibre budgétaire, sauf dans la tête du ministre des Finances.
Voilà. On a eu aussi des infos là, sur les... Parce qu'on a eu la semaine dernière un rapport à Nicolas Marceau, ancien ministre des Finances du Québec, Mme Forget, Monique Jérôme Forget, sur l'idée que les municipalités ne taxent pas assez leurs concitoyens. Et là, on apprend, coup de théâtre en fin de semaine, que finalement, en 3 ans, les revenus de taxation des municipalités au Québec ont augmenté de 19,9 %, soit au-delà de l'inflation. Là, on joue un jeu très dangereux, là.
Bon, on joue un jeu très dangereux. Ça a été fait pour le compte de l'UMQ. J'ai travaillé un petit moment à l'UMQ. Je pense que j'aurais pu écrire les conclusions qui allaient arriver avant qu'ils fassent le rapport, là. Concrètement, on le savait très bien que ça allait aller vers plus d'impositions parce que les municipalités veulent toujours, toujours, toujours plus d'argent. Ça, je pense que c'est clair. Puis effectivement, là, on le voit qu'il y a eu une augmentation importante de 3 milliards en matière de revenus, de taxation. C'est beaucoup plus élevé, là. C'est une augmentation assez importante, là, de près de 20 points pour, de près de 20 %. C'est beaucoup, beaucoup plus que l'inflation cumulée des trois dernières années, plus du double. Donc, on comprend que les municipalités en font de l'argent. Maintenant, le problème, c'est que les municipalités, il y a plusieurs problèmes, là, deux problèmes vraiment importants. Le premier, c'est de penser qu'ils ont vocation à s'occuper de tous les éléments de la vie du citoyen. Ils n'ont pas vocation à gérer les changements climatiques, leur en déplaise. Ils n'ont pas vocation également à tout gérer, notamment, évidemment, la crise d'itinérance peuvent les toucher, mais on a l'impression qu'ils veulent vraiment toucher à tout, ouais. Le logement, mais c'est pas leur rôle. Qu'ils se concentrent sur l'entretien des infrastructures, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, on a un déficit de maintien des actifs au municipal, mais occupez-vous-en. Arrêtez de nous parler de parc-éponge puis de piste cyclable, puis occupez-vous de nos infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut augmenter les taxes, mais c'est parce qu'on veut tellement s'occuper de la culture à tout vent que on est complètement à côté de la plaque. Le citoyen, il va avoir une route droite, puis il va avoir de l'eau quand il ouvre le robinet. Il ne veut pas nécessairement aller voir des clowns la fin de semaine à la bibliothèque municipale, là. Fait que ça, c'est important de comprendre ça. Puis la deuxième chose qui est franchement fondamentale, puis l'Institut de la statistique du Québec nous le rappelle année après année, au mois de novembre, c'est à quel point les employés municipaux ont une rémunération complètement déconnectée à quel point elle est élevée. Je parle pas juste du salaire, là. Le fonds de pension, la quantité d'heures travaillées pour le taux horaire, là, est très, très élevé au municipal quand on compare ça.
Mais comment on explique ça? Parce que là, on dit aux municipalités, vous voulez plus d'argent alors que vous en avez déjà plus. Vous avez perçu plus d'argent que l'inflation, puis vous nous dites le contraire dans des documents. Et en plus, vous, au niveau de vos dépenses et rémunérations, vous n'êtes pas là. Vous l'avez échappé complètement.
Bien, souvent, ce qu'on va dire, oui, mais le niveau d'augmentation des taxes, on ne parle pas du revenu perçu, mais le niveau d'augmentation des taxes, notamment foncier, est un petit peu moins que l'inflation, c'est ce qu'ils vont nous dire. Mais au final, les revenus de taxes ont explosé. Puis c'est surtout que c'est tellement... La rémunération municipale est tellement élevée qu'il y a du gras à couper. Ça, c'est d'une évidence. Il faut absolument réduire ça pour être dans des sphères qui sont comparables au secteur privé parce qu'aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de points de pourcentage en haut de la rémunération du secteur privé, entre autres à cause des fonds de pension, mais même au niveau du salaire, c'est supérieur. Et quand on compare avec le secteur privé, l'Institut de la statistique du Québec prend les entreprises avec plus de 200 employés. Donc, on comprend que c'est des entreprises déjà où on rémunère particulièrement bien comparativement à l'ensemble des entreprises du Québec. Donc, on est dans une situation municipale où on a du gras à couper. Il faut arrêter d'octroyer d'autant grandes augmentations de rémunération et de salaire. Il faut simplement se dire, là, faut revenir à la base. C'est ça le problème. On n'est pas, on se concentre pas sur la base. On parle constamment de changement climatique. C'était les assises de l'UMQ.
Ouais, ouais, ouais.
Premier atelier, changement climatique. On peut-tu parler du déficit de maintien d'actifs d'aujourd'hui, des aqueducs, des routes? La base, c'est ça que le citoyen veut, mais ça a l'air que c'est pas ça que les politiciens veulent au municipal.
Mais pourquoi l'Union des municipalités parle de champs de compétences dont elle n'a pas nécessairement les pleins pouvoirs?
C'est une bonne question. Je pense que c'est un processus... On se renvoie la balle entre les élus et l'organisation, à savoir, là, l'organisation leur pousse ça, les élus leur poussent ça. Donc là, okay. Ben, je pense qu'ils s'auto-encouragent à pousser des choses comme les changements climatiques et autres. Mais le problème, encore une fois, c'est que ce qu'on a de besoin concrètement, c'est que l'eau coule quand on ouvre le robinet. C'est qu'il n'y a pas de problème et de grosses fuites d'eau. C'est de s'assurer que les routes sont droites lorsqu'ils sont. Ils ne sont pas bosselés comme on a vu dans les derniers mois. Puis il y a une partie que c'est normal, là, mais l'autre partie qui est absolument pas normale. Malheureusement, quand on regarde les budgets municipaux, ce qu'on constate, là, c'est que c'est pas seulement sur le maintien d'infrastructures, très, très, très loin de là. Il va y avoir une grosse partie sur la culture, grosse partie sur le loisir, environnement. Je comprends. On veut vivre dans des villes intéressantes. Mais le problème, c'est qu'avant de commencer à me parler de culture, il faut me parler de l'entretien et de maintien d'actifs parce qu'on arrive à un point des années après où on se dit, ben, comment on fait, là? comment on fait pour s'assurer d'entretenir nos infrastructures qui coulent, nos infrastructures en très mauvais état, en piètre état? Ben, le problème, c'est qu'après ça, on va constamment demander aux citoyens, puis rappelons-le, au Québec, on est les plus taxés. Donc, on n'en a plus d'argent. On est complètement siphonné par la machine.
Accès à la propriété, là, on nous parle de peut-être des maisons préfabriquées au Québec, une espèce de modèle où tous les quartiers, les maisons se ressembleraient d'un terrain à l'autre. On parle de quoi? De prix moyen de 350 000, alors que dans bien des municipalités, c'est plus ça, mais plus du tout. Là, on est à 450 000, 500 000 $. Et nouveau code de construction au Québec, ça ne s'invente pas, là. Nouveau code de construction qui va faire exploser le prix des nouveaux projets immobiliers. Il me semble que là, il n'y a rien qui est aligné dans le bon sens.
Il y a plusieurs éléments sur ça. La question du code de la construction, je pense qu'il va falloir voir est-ce que c'est une simplification. Si c'est pas une simplification, puis on rajoute des couches de complexification.
On a l'air à rajouter, là, parce qu'il y a des promoteurs qui nous disent que ça va être 17 000 $ de plus par porte.
Ben non, mais c'est un désastre. On va pas là. T'sais, je veux dire, pourquoi augmenter la pression sur les prix de construction quand on sait déjà, comme tu l'as dit, que c'est inabordable pour plusieurs. Là. Les jeunes de 23 ans qui se disent un jour, je vais être propriétaire, n'ont pas besoin d'attendre jusqu'à 50 ans normalement. Là. Ils doivent pouvoir le devenir rapidement. Donc, effectivement, maintenant, pour le préfabriqué, j'ai pas de problème si c'est le privé qui dit, regarde, on va innover, on va aller de l'avant avec ça.
Ah oui?
J'ai pas envie que ce soit le gouvernement.
Mais c'est le gouvernement qui est là-dedans. Là. Ah oui, c'est ça.
C'est ça le problème. C'est que le gouvernement se met le nez dans quelque chose qui n'a pas à se mettre le nez. C'est simplement de... C'est parce qu'au lieu de déréglementer, de rendre ça plus simple, on veut complexifier les choses
exact.
Et intervenir. Le gouvernement ne comprend pas qu'il n'est pas la solution. Année après année, jour après jour, là, on regarde, le gouvernement, c'est souvent le problème, malheureusement.
Oui, on regarde nouvelles normes sismiques là, dans le code de construction, là, dans le nouveau code de règlement. On dit que nouvelles normes sismiques vont entraîner une hausse des dépenses pour un immeuble à Québec dans le quartier Pointe-aux-Lièvres de 900 000 $.
Ça ne s'invente pas. C'est la personne qui va acheter son appartement-là,
ben
c'est
oui.
La personne qui va essuyer la facture.
Ou louer, là, ça, parce qu'à la location, le prix ne sera pas à 1100 $ l'appartement. Là.
Il n'y a aucune chance, puis ça va faire en sorte d'envoyer un message aussi aux constructeurs. Ça vous tente-tu vraiment de construire là? Donc, ceux qui vont construire, ça va coûter plus cher. Mais il y a un impact aussi sur la non-construction d'appartements qui va augmenter l'effet de rareté parce que l'offre augmente pas aussi rapidement,
étant donné
la complexification et les coûts liés à la réglementation. Donc, encore une fois, ça le démontre concrètement. Le gouvernement, là, il veut bien faire, là, mais il fait souvent mieux quand il fait rien ou quand il déréglemente, parce que quand il essaye quelque chose, ça dilapide les fonds publics, donc notre argent de l'impôt, ça complexifie les choses, puis en l'occurrence, ici, ça pourrait même exacerber le prix du logement, puis je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte où le logement coûte plus cher que jamais, c'est certainement pas ça qu'on a de besoin en tant que Québécois.
Et tout ça arrive quand Mme Vrégène nous donne des mesures pour tenter de baisser le coût de la vie des Québécois. Et de l'autre côté, tu as des super normes qui rentrent en ligne de compte et des mesures et des règlements à plus finir. Quand même ironique là, de voir ça actuellement.
On voit qu'il y a un manque de cohérence, puis malheureusement, le gouvernement semble pas le voir. Mais effectivement, si on veut donner des chèques, parce qu'il faut aussi dire que dans les mesures de Mme Fréchette, là, il y a des chèques qui sont envoyés. Là.
Oui, oui.
La SAMU, on envoie des chèques, ça revient, ça. On revient avec le modus operandi en 2026 de se dire, on va envoyer 150-200 $ aux familles, peut-être avec un peu moins d'argent, mais au lieu de faire ça, puis je tiens à dire ça aussi, de respecter la promesse qu'on avait faite auparavant de réduire d'un autre point de pourcentage, l'imposition aurait été beaucoup plus intéressante. C'est pas le même coût, mais ça forcerait le gouvernement à réduire aussi les dépenses.
Ben, c'est ça.
Qu'il n'a pas du tout envie de faire en ce moment.
Ben oui, puis on va le voir sur le déficit prochain. Gabriel Giguère de l'Institut économique, toujours un plaisir. À la prochaine.
À la prochaine.
Merci. Aïe, aïe, aïe. Ah, le prochain gouvernement va avoir d'ouvrage, hein? Mais tu sais, en même temps, tu dis, OK, correct.
Mais tu sais, les nouvelles normes sismiques, là.
Oui.
Quand est-ce que tu as eu un tremblement de terre de plus de 7, mettons, sur l'échelle Richter au Québec? Quel est le dernier bâtiment qui s'est écroulé en raison d'un tremblement de terre?
Moi, j'ai pas vu ça, là.
C'est pas, là?
Non. Non, non, mais c'est ça. On ajoute des normes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les corridors plus grands.
Oui, oui.
Pis, des salles de bain plus grosses pour faire passer une chaise roulante.
Ça, puis on dit que des édifices de plus de 5... avec une occupation de plus de 500 et plus, là, capacité de 500 personnes et plus, il va devoir avoir des tables allongées pour adultes. Des tables allongées pour adultes.
Ouais. Non,
quand tu vas être vieux, tu vas pouvoir te changer là.
Il y a ça, puis il y a l'histoire aussi des bornes électriques. Là. 5 logements ça aussi. Plus. Là, ça va être des bornes électriques partout, obligatoires. Ça aussi, là, c'est pas fait.
Ouais, ton char électrique, tu vas falloir que tu le branches.
Ouais, ton char électrique obligatoire, 2035.
C'est ça, là.
C'est ça. Voilà, hey, après la pause,
ouais.
Rodolphe Osny débarque.
Couture dans le mid. Radio. X.